parabole du jour avec le Père Willem.
Voici un Dieu qui se laisse déranger et toucher. Comment le Christ manifeste-t-il particulièrement la tendresse de Dieu? Des petites choses auxquelles il faut être attentif au fil du récit de sa vie publique, alors qu'il est d'abord venu prêcher. Les évangiles rapportent souvent quelques déviations, des déviations d'itinéraire, quelques détours imprévus ou des attardements sur l'horaire, des petites perturbations bien significatives de sa tendresse pour l'humanité souffrante. C'est que la tendresse est indéfectiblement patiente. Accepter d'être dérangé en est une manifestation discrète. Le programme ou le protocole peuvent bien sûr être implacables, mais la tendresse les rend toujours un peu vulnérables. Ainsi de ce chef de la synagogue, Jaïr, qui vient trouver Jésus parce que sa petite fille est à l'article de la mort. En chemin, arrivent de chez lui des gens de sa maison qui disent à Jésus « Cette fille est morte ». Alors, ces personnes disent également au Père, « Oui, elle est morte, ta fille. Alors pourquoi ennuyer encore le Maître ?» De fait, peine perdue. « À quoi bon déranger encore le Maître ?» disent d'autres traductions. « À quoi bon ?» Les trois petits mots terribles de la résignation. Il faut bien se faire une raison. Mais la tendresse de Dieu n'est pas toujours du côté de la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ressusciter cette petite fille servira bien sûr aussi à manifester sa puissance messianique sur la mort et participe de son enseignement. Mais ce signe si décisif n'est pas manifesté hors sol, dans l'absolu. Il garde cette émouvante empreinte de tendresse pour le genre humain, pour cette petite innocente qui agonise et meurt, et pour son père qui implore. À la différence de la veuve importune, les gens de la maison de Jaïr ignorent la vulnérabilité de la tendresse de Dieu. Ils ne veulent pas déranger. Oh, ce mot. Do not disturb. Oui, c'est ce qu'on voit ici et là. Pour cet impératif bien significatif de la vie moderne, dans les hôtels, par exemple, dans les officines affairées, il y a même des pancartes toutes prêtes. Ne dérangez pas. Mais pas dans le cœur de Dieu. Peut-être attend-il même que nous le dérangions un peu plus, sans calculer d'avance la faisabilité de nos requêtes, sans souci de l'encombrement du standard de la miséricorde. De cela, il s'arrange. Il y a encore d'autres exemples frappants, et ils abondent. Au chapitre 4 de l'évangile de Luc, autre exemple, une nuit épuisante pour Jésus. Voilà qu'il vient à peine de guérir la belle-mère de Pierre, que le bruit du miracle se répand dans tout Capharnaüm. On les imagine alors au seuil de la maison, tous ces hommes et ces femmes qui amènent sans délai leurs infirmes. Ils semblent sortir de partout. Bouleversante corps de la misère humaine qui s'avance vers Jésus. Tel homme amène son enfant, telle sœur son frère, telle femme sa voisine. C'est beau d'ailleurs de voir les bien portants venir lui présenter les infirmes. Il n'a pas le cœur de les renvoyer. Et toute la nuit, infatigablement, il les guérit car la vraie tendresse ne se fatigue pas. Elle a des réserves. En faisant cela, Jésus prend même des risques. Il s'expose à être connu avant l'heure comme le Messie. Il n'est pas venu à Capharnaüm pour ça. Mais comment résister à l'imploration de cette foule en attente devant la maison de Pierre? Non, il n'a pas le cœur de les renvoyer. Au petit matin, quand enfin il se retire dans un endroit désert pour prier son père dans le secret, les habitants le cherchent encore pour le solliciter et le retenir. C'est qu'ils tiennent là un guérisseur hors pair. Sa mission pourtant ne s'arrête pas là. Pour les sauver, et pas seulement les guérir, il faut que le chemin continue. De Capharnaüm au Golgotha, la route est encore longue. N'empêche, il a fait un beau crochet de tendresse, car la tendresse a parfois quelques excès, quelques détours, et à l'occasion, elle sait sortir des sentiers battus ou tracés d'avance. Ce sont de belles sorties de route, mais en même temps, elles ne sont pas qu'accidentelles. Elles disent l'essentiel du cœur de Dieu. D'ailleurs, de cette capacité de la tendresse à se laisser déranger, Jésus en a même fait son enseignement sous forme de parabole. Luc chapitre 11. Si quelqu'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains parce que un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si l'autre de l'intérieur lui répond « Ne m'ennuie pas. Maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi sommes couchés, je ne puis me lever pour te donner un pain. » Je vous le déclare, même s'il ne se lève pas pour lui donner ce pain, parce qu'il est son ami, eh bien, parce que l'autre est sans vergogne, il se lèvera pour lui donner tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi, je vous dis, demandez et on nous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. La tendresse fait donc bon accueil et se laisse fléchir. Encore une fois, question de ligne courbe plutôt que de rectiligne, c'est véritablement son dessein ou son destin. Par tendresse, Dieu se laisse déranger, se laisse toucher au sens propre comme au sens figuré. En effet, il se laisse toucher au sens où il se laisse émouvoir, mais il se laisse aussi parfois toucher au sens propre. Par tendresse pour les hommes, Dieu se laisse toucher, oui, il se laisse toucher. Il n'y a pas que cette incroyable réponse de tendresse faite à Thomas quand l'apôtre veut vérifier qu'il est bien ressuscité et qu'il met ses mains dans ses plaies. Ah, oh, je me souviens, le Gershin a fait un magnifique tableau de cette scène de l'incrédulité de Thomas. On y voit l'inclinaison tendre de la tête du Christ et son regard très, très doux penché vers Thomas, empreinte d'une indulgente aimante, une indulgence de proximité pour cette terrible main, si belle audace. Cette audace merveilleuse de se pencher sur la détresse de celui qui exprime sa douleur.